Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Elle.
Elle nous reçoit chez son ex-mari, rive gauche, à Paris. Sans façon, ni chichi. « Je sors de la douche, faites comme chez vous !» nous crie-t-elle en s'engouffrant dans un long couloir. Alessandra Sublet revient d'un cours de claquettes intense, le besoin de se dépenser. Il y a quelques années déjà, elle a fui la capitale, où elle ne s'est jamais sentie à sa place, pour s'installer dans le sud de la France. Depuis, elle fait des allers-retours, comme en ce moment, où elle est sur scène tous les soirs pour un one-woman show, un saut dans le vide. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Animatrice star pendant des années, Alessandra Sublet a tout plaqué pour monter sur les planches dans un seul en scène librement inspiré de sa vie. Elle y revient sur ses échecs, professionnels mais aussi personnels, qui l'ont construite. À 47 ans, elle estime s'être enfin trouvée, le jour de son divorce, justement. Je suis Marion Ruggieri, bienvenue dans Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Alessandra Sublet, bonjour.
Salut.
Vous nous recevez chez votre ex-mari dans cet appartement. Peut-on en déduire que c'est un divorce réussi?
Je crois qu'on peut le dire. Effectivement, lui est dans le sud chez moi pendant que moi je suis à Paris chez lui. Parce qu'effectivement, quand je travaille à Paris, et c'est le cas en ce moment puisque je suis sur scène, lui descend et s'occupe des enfants. Donc oui, c'est un divorce réussi et c'est une vraie chance.
Alors, vous venez de le dire, vous vivez aujourd'hui dans le sud. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous plaît là-bas?
En vérité, je suis lyonnaise déjà, donc on partait plus souvent dans le sud qu'on montait dans le nord, c'est le cas de le dire. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurais une maison dans le sud et je vivrais au bord de la mer. Donc, à un moment donné, quand j'ai senti que professionnellement, j'avais un peu moins de motivation et surtout que j'avais très envie de cette qualité de vie, j'ai fait le pas très instinctivement et très naturellement.
Cette qualité de vie, elle se traduit comment ?
La qualité de vie, c'est d'avoir le soleil au quotidien, parce que je suis profondément une fille du soleil, je crois. Et parce qu'en fait, j'ai rien de citadin chez moi, j'ai rien de mondain chez moi. J'habite dans un coin de campagne avec un PMU, une boulangerie, une boucherie. J'adore pouvoir boire le café le matin en lisant la presse avec mes anciens du coin. Voilà, c'est ça la qualité de vie. C'est des choses simples qui se traduisent par des petits trucs au quotidien qui sont pour beaucoup anodins et qui veulent pour moi dire beaucoup.
Et que vous ne trouviez pas à Paris?
Et que je n'avais pas à Paris. J'ai jamais senti que j'étais à ma place ici. C'est un truc de dingue. J'ai toujours apprécié Paris en tant que ville, capitale, des musées, de la Tour Eiffel, de tout ce qui l'entoure. Et notamment quand je faisais les matinales, parce que je passais avec mon petit scooter Place de l'Étoile et qu'il n'y avait pas un chat et que je me disais « Waouh, c'est quand même dingue ». Mais rien de cette ville ne m'attire et je suis à ma place là où je suis aujourd'hui, c'est sûr.
On a l'impression que vous en parliez, vous ne tenez pas en place. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous étiez déjà comme ça? étant petite.
J'avais un petit côté hyperactif, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais je crois que on se pose un peu avec l'âge aussi. Alors il y a des gamins qui sont peut-être un peu plus posés que d'autres, mais moi effectivement j'avais la bougeotte, mais j'avais soif de voyage, j'avais soif de découverte, j'avais soif de curiosité. Et si c'est ça la bougeotte, oui, alors j'avais ça en moi. Aujourd'hui je l'ai moins parce que je pense que voilà, encore une fois, j'ai 47 ans. On s'assagit, on mûrit, on a fait déjà beaucoup de choses dans sa vie, professionnelle et personnelle. Et il y a 3 ans, j'ai eu ce besoin d'être en quête de sens, en quête de réflexion sur ma vie, de construction un peu différente. C'est comme un travail sur soi. C'est tellement important de le faire, je trouve, à un moment donné. Et j'ai radicalement changé intérieurement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mystique là-dedans. Je n'ai pas prié Bouddha tous les jours non plus. Mais je pense que j'ai fait un vrai bilan qui a été salvateur pour la suite de ma vie, en fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est comme si on appuyait sur pause et qu'on regardait un tout petit peu en arrière et qu'on se disait, attends, qu'est-ce que tu as fait ? Il y a quand même 2 mariages, 2 divorces, 2 enfants, 1 déménagement important, un arrêt total de ma vie professionnelle dans l'audiovisuel. Et j'ai vraiment eu besoin de me recentrer sur moi, de comprendre un peu plus qui j'étais, comment je fonctionnais, de savoir si l'entourage que j'avais était sain et bienveillant. C'est vraiment un arrêt sur image. Et c'est important de le faire. Et à ce moment-là, je me suis mis beaucoup à marcher, et notamment dans ma région, que ce soit dans le Mercantour ou dans l'Estérel. Et ces marches de 5-6 heures, elles me faisaient un bien fou. Elles m'ont aidé à développer beaucoup de pensées que j'avais. Je pense qu'elles m'ont aidé aussi à développer le spectacle que j'ai écrit, ça c'est sûr. Et elles m'ont vraiment permis de me reconstruire intérieurement. On a une vie folle ici, on ne se rend pas compte, surtout dans nos métiers. On voit beaucoup de gens, on brasse beaucoup de choses. On a des discussions qui sont plus des discussions au sens propre du terme. Je parle d'échanges, de vrais échanges avec des gens sur des sujets profonds. Voilà, j'avais besoin de cette sincérité-là, de cette authenticité-là, et je ne l'ai pas ici alors que je l'ai là-bas.
Alors on va y revenir. Avant ça, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez quitté Lyon, où vous êtes née, pour Paris ? Vous aviez quoi en tête ce jour-là ?
Je revenais de New York, où j'étais restée pendant 3 ans. Et donc, je suis rentrée voir mes parents. Je savais que je ne pouvais pas vraiment y retourner parce que j'avais des problèmes de visa. Et donc, je ne me voyais absolument pas rester à Lyon. J'avais l'impression de faire un pas en arrière, ce qui n'était pas possible pour moi. Et je me rappelle, j'ai pris ma petite Twingo verte. Et je me suis dit, voilà, j'avais trouvé un appart via des potes qui était tout pourri, mais que j'allais refaire. Et je suis arrivée, je me rappelle, en pleine nuit, c'était 1h du matin. Vraiment, l'appart était dégueu, on ne peut pas dire mieux. Mais je me suis dit, allez, c'est le début d'une nouvelle vie. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. J'avais un peu de sous de côté. Mes parents, évidemment, n'étaient pas du genre à dire « Tiens, on donne 100 balles et voilà. » Et je me rappelle très bien de ce soir-là, à 00h30, avec ma Twingo verte sur le rond-point de l'étoile, en train de me dire « Attends, comment ça marche ?» partout. Et je me suis dit « Ça va être le début d'une nouvelle aventure. »
J'imagine que quand on est une jeune femme, qu'on ne connaît personne, il faut jouer des coudes pour s'imposer dans une nouvelle ville comme Paris, mais aussi dans une nouvelle vie. Est-ce qu'il vous a fallu lutter ?
C'est sûr. Je pense que tout le monde a besoin de lutter un peu pour se faire sa place. Ça ne veut pas dire marcher sur les autres. Ça veut juste dire de se battre au quotidien, parce que chaque jour n'est pas forcément... Et pas forcément gay, chaque jour est pas forcément comme on aimerait que ça se déroule. Et ce qui est bien dans la vie, c'est que vous allez peut-être avoir 2 jours de merde, pardon, mais c'est la vérité, et puis il y a un jour derrière où tout va s'embellir, vous allez avoir des réponses positives et vous allez vous commencer à trouver une place. Et c'est ce jour-là sur lequel il faut rebondir pour essayer d'avancer, en fait. Et moi, j'ai ce truc-là en moi, c'est une chance, c'est ce principe de rebond. Mais oui, parce que surtout dans le métier qu'on fait, enfin dans le métier que j'ai fait et certainement dans d'autres aussi, y a pas de miracle, il faut s'accrocher, il faut moi je me rappelle, j'appelais 30 sociétés de production par jour. Quand on a comme moi, j'avais à l'époque 26 ans, on a la niaque et on fonce, quoi. Donc toujours avec ma Twingo verte et avec mon plan, je courais les rues de Paris et bizarrement, j'avais mais vraiment aucune affection pour cette ville. C'est-à-dire que je savais que j'allais y trouver mon compte professionnellement, mais je n'y arrivais pas, en fait. Et pourquoi
c'est marrant,
ça hein. Parce que je suis foncièrement une fille de la campagne. Je suis née à la campagne. Donc, en fait, tout était différent pour moi ici. C'était vraiment un Indien dans la ville. Mais encore aujourd'hui, hein, faut me demander de trouver un resto ou un café ou un endroit, je suis complètement paumée, en fait. Non, mais vraiment.
À l'époque, vous dites, j'appelais 30 sociétés de production par jour. Vous essuyez 30 refus ou il y a quand même...
Oui, parce que vous tombez sur une super sympa hôtesse qui vous répond et qui malheureusement n'a pas les réponses à vos questions. Mais à force de l'appeler, elle commence à se rencarder. Puis à force de l'appeler, vous faites connaissance. Et puis à force de l'appeler, elle commence à se dire, tiens, elle est peut-être sympa, elle. Et puis c'est comme ça que ça marche. De toute façon, j'avais pas 10 milliards de solutions non plus. Mais je sais pas, c'était un bâton de maréchal pour moi, c'était important d'avancer, et puis sincèrement, j'avais de l'ambition. C'est marrant parce que c'est un mot qui a été déformé dans notre société, parce que l'ambition n'est pas un vilain mot. L'ambition, c'est pas marcher sur les autres, c'est pas forcément écraser son prochain. L'ambition, c'est juste de se dire, j'ai envie d'y arriver. J'ai envie de réussir. Je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai envie que ça marche pour moi. C'est gratifiant, l'ambition, en fait. Et c'est bien d'en parler parce que c'est bien de redonner ces lettres de noblesse à ce mot-là.
Vous la tenez d'où, de qui, cette ambition ?
J'en sais rien. Je pense que l'éducation fait beaucoup. Moi, j'ai eu des parents qui nous ont pas élevés. J'ai une sœur et un frère. On n'a pas été élevés comme des princesses déjà. C'est-à-dire que on n'a jamais entendu à la maison qu'il fallait trouver un homme, se marier, faire des enfants. On a entendu à la maison, faut trouver un boulot, être indépendante et après tu feras ce que tu veux. Et je pense que ce parcours-là, en tout cas, en l'ayant entendu beaucoup, en voyant mes parents beaucoup bosser, forcément, je me suis dit, attends, ah oui. Ça a du sens, quoi. Si je suis indépendante et que je peux faire ce que je veux, surtout moi qui avais cette empreinte de liberté au fond de moi et je le ressentais, je savais que c'était la clé. Donc, l'éducation. Moi, je crois beaucoup qu'on conditionne quand même un peu ses enfants à se battre un peu dans la vie parce qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Il y a un moment donné, si on veut avancer et pas forcément avoir une reconnaissance ou être connu, mais si on veut vraiment ce job-là, faut se faire un peu mal. C'est le travail. Il n'y a pas 10 milliards de solutions, en fait, quoi.
Et vous vous êtes fait mal ?
Moi, oui, bien sûr. Mais dans le bon sens du terme. Ça, c'est pas ma foi catholique de jeune femme qui se bride parmi toutes ces injonctions. C'est vraiment parce que je crois qu'à un moment donné, il faut travailler. Et quand on travaille beaucoup, on se fait un peu mal. Mais c'est quand on réussit aussi et quand on commence à voir les fruits de son travail qu'on se dit que finalement, oui, ça va pas tomber du ciel, quoi.
Vous aviez une place en or, comme on dit, à la télévision, où vous étiez animatrice depuis 20 ans. Une place que vous avez pourtant décidé de quitter pour vous lancer dans un seul en scène. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ? Y a-t-il eu un jour où vous vous êtes dit « c'est bon, j'arrête » ?
Je m'étais toujours dit que le jour où je ne sentirais plus mon cœur qui bat pour le métier que je fais, j'arrêterais. Parce que c'est avant tout un contact avec les gens... L'antenne, c'est le sourire. Hein. Je ne me vois pas arriver tous les jours en faisant la gueule, globalement. Et je me suis dit, si je le fais à contre-cœur, ça va... c'est pas possible. C'est pas dans mon ADN. Je suis beaucoup trop honnête, je sais pas, ou beaucoup trop sans filtre pour que ça se passe comme ça. Et j'ai senti que ça arrivait petit à petit et je me suis dit, c'est le moment. Mais un peu comme dans un couple, quand les choses s'effritent, en fait. On réessaye et puis si vraiment on voit que ça prend pas, eh ben on se sépare. Ben c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vous diraient, oui, mais bon, certains n'ont pas le choix. J'ai pas plus eu le choix que d'autres. En plus, moi, je gagnais très très bien ma vie, donc j'ai jamais eu un train de vie dément. Mais je me suis dit, effectivement, il va falloir ralentir, ma grande, parce que voilà. Mais c'était trop important pour moi. C'était trop important de me dire, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais. Donc j'ai d'abord pris cette décision d'arrêter. C'est pas venu du jour au lendemain, c'est venu progressivement. Et puis il y a un moment donné, vous savez, c'est le principe de l'idée. Vous commencez à gamberger, puis vous en parlez, puis ça se fait. C'est ça, c'est trois étapes. Mais je crois que c'est important de le faire à un moment donné, de façon rationnelle. Hein. Je pense que j'ai vraiment la tête sur les épaules. Et je viens pas d'un milieu où l'argent proliférait, donc je sais ce qu'est un sou, je sais ce que c'est que de s'arrêter quand on gagne de l'argent, mais je sais aussi que c'est utile à un moment donné d'aller se trouver quelque part si on n'est plus épanoui et heureux là où on est.
Avec le recul, Alessandra Sublet, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes sentie à votre place pour la première fois ? Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Quand j'ai divorcé pour la deuxième fois. Oui, parce que je me suis dit, C'est pas simple un divorce. Et encore une fois, je le dis dans le seul en scène, c'est devenu très banal aux yeux de la société, mais néanmoins, ça reste traumatisant pour ceux qui le vivent. Mais quand on arrive à divorcer, à faire le pas, en tant que femme, à un moment donné, on reprend quelque chose qu'on a peut-être égaré et donc de retrouver sa juste place. Je dis pas que les femmes mariées l'ont pas, attention. Hein. C'est que moi, à ce moment-là, je me suis dit, tu n'es pas faite pour ça, ma fille. C'est pas ta vie. C'est pas ce qui te rend heureuse. Et cette place-là n'était pas la tienne. Et je me retrouve à ma juste place aujourd'hui en ayant repris cette liberté-là. C'est-à-dire que en aucun cas, j'aurais pu vous faire une réponse professionnelle sur cette question-là. Retrouver ma juste place à un moment donné, ça a été retrouver mon identité, ma liberté, mon épanouissement. Et certaines femmes le vivent avec des hommes. Hein. Encore une fois, moi, j'ai juste pas ça pour moi. Et j'ai besoin d'être comme je vis là, c'est-à-dire un peu électron libre. Et même si je me marie une troisième fois demain, j'aurai jamais cette vie rangée, des caleçons à côté de mes culottes, d'emménagement, ou peut-être dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Mais voilà, je suis à ma juste place aujourd'hui. Mais ça, pour l'être, ça demande de travailler sur soi. Et c'est pas facile, c'est hyper dur, parce qu'on fait des constats qui sont pas simples. Donc on touche un peu le fond, puis après on rebondit et puis on essaye de repartir. Quoi.
Quel genre de constat ?
Ben, c'est encore une fois... Le regard des autres, quand on divorce, par exemple, moi c'était mon deuxième divorce, mais là j'avais des enfants. Quand on divorce, il y a d'abord le regard des autres, et ensuite il y a ce petit truc traumatisant des dommages collatéraux qu'il y a autour de soi. Et ça, on s'endort pas sereinement le soir, parce que vos parents peuvent vous faire la morale, parce que vos amis peuvent vous dire « c'est quand même ton deuxième divorce, tu crois pas que t'as un problème ?» C'est les injonctions de la société. C'est tout ce qui fait que certains pensent vivre dans une certaine normalité. Cette normalité n'est pas la même pour tout le monde. Et elle n'est pas celle que moi j'ai envie d'avoir. Ma normalité à moi n'est pas celle du voisin. Et c'est pas grave. Tu peux me juger, mais moi, en fait, si j'ai besoin d'être droite dans mes bottes, c'est cette normalité-là qui est bonne pour moi. C'est dur hein, de prendre un chemin qui n'est pas celui des autres. Dans la vie, c'est hyper dur. Et alors moi, qui suis hyper atypique, à chaque fois j'ai pris le chemin de traverse, à chaque fois je me suis retrouvée confrontée au regard des autres. Et dans nos vies, tous les jours, on l'est.
Par exemple ?
Typiquement, on arrête la télévision pour partir faire autre chose. Dans le regard des autres, il y a une anormalité. On divorce deux fois, il faut aller voir un psy. On nous culpabilise assez souvent sur la façon d'éduquer nos enfants aujourd'hui, qui, pardon, sont dans des vrais cocons. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle de l'époque où moi, on fumait dans la bagnole avec les gamins derrière, et sans réhausseur. Et tu vois, on nous dit plus libre aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Moi, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus bridé qu'avant. Il y a des paroles qui se libèrent, notamment du côté des femmes, et ça, c'est une bonne chose. Mais on est... très bridé quand même par le regard des autres. Et j'ai l'impression, plus qu'avant, bizarrement.
Lorsque vous êtes partie vous installer dans le Sud, on vous a à l'époque quasi accusé d'avoir abandonné vos enfants.
Ouais.
Vous avez deux enfants.
Ouais, ouais c'est fou. J'avais dit dans une interview pour le L, justement, que j'étais très heureuse de m'affranchir un peu de mon rôle de mère et de laisser la place au père. Et que je partais vivre dans le Sud. Effectivement, j'avais mes enfants une semaine sur deux à Paris. Mais c'est fou, en fait. C'est-à-dire que le fait de dire qu'une femme peut s'affranchir un peu de son rôle de mère suite logique d'un divorce va en faire réagir d'autres du même âge que vous. Hein. Pas plus vieille, hein. C'est ça qui est dingue. Et moi, je me suis dit, y a un truc qui cloche quelque part, en fait. Moi, on me vante tous les jours l'émancipation des femmes. On me prône leur indépendance. On m'explique qu'on prône l'indépendance des femmes. Et à côté de ça, je me prends une volée de bois vert sur les réseaux sociaux parce que j'explique que je m'affranchis de mon rôle de mère et que j'aimerais m'épanouir en tant que femme. Typiquement, on touche du doigt ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui évolue tout le temps non plus dans le bon sens. Ou alors, il faut accepter que certaines d'entre nous aient pris en compte l'avancée de notre société et notre condition féminine pour s'épanouir pleinement. Et puis franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que je vais faire moi, quoi ? Moi, je ne suis pas dans le pieu des autres, donc je n'ai pas envie qu'on rentre dans le mien. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été dans le pieu des autres. Et j'aimerais pas y être. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous jugent et dont c'est beaucoup plus le bordel dans leur vie. Donc, c'est ça être droite dans ses bottes. C'est à un moment donné accepter qui l'on est, le dire haut et fort et peut-être aider certaines qui vous écoutent. Voilà. Si ma notoriété doit servir à quelque chose, quand même je ne suis pas Beyoncé, bah, ce sera à ça. Et désormais, ce sera même qu'à ça. Ça va être mon bâton de maréchal numéro 2, quoi.
Comment ont réagi vos enfants ?
Quand quoi,
à tout
quand...
ça ?
La séparation d'abord, alors nous on leur a parlé avec Clément, donc tous les deux, et ça n'a pas été simple. Ce qui n'a pas été simple pour eux, c'est qu'on a fait tous les confinements ensemble derrière, on a partagé une maison, les enfants n'ont jamais bougé, et donc c'est une fois qu'on a emménagé dans le sud tous les trois ensemble, parce que maintenant je les ai tout le temps avec moi, quelle mère indigne. Et là, pour le coup, il y a eu une vraie césure. Je pense que la communication avec nos enfants est le premier vecteur de bonnes ondes. Ne pas penser qu'ils sont de vrais gosses et qu'on ne peut rien leur dire. Nos enfants sont des éponges. Alors, je ne suis pas pédopsie, hein, mais je le vois tous les jours. Ils captent tout, même ce que vous ne leur dites pas. Et moi, j'ai pris le parti de tout partager avec eux, de tout dire, d'exprimer... mes émotions, aujourd'hui ça va, aujourd'hui ça va pas, et pourquoi ? Et on explique, même les mots des grands, mots M-A-U-X, sont des mots qui peuvent résonner chez les enfants. Donc voilà, je prends pas mes gamins pour des gamins en fait.
Vous abordez dans votre spectacle le poids du regard des autres dont vous parlez depuis le début de cet entretien, à travers un dîner pénible. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ?
Ouais, en fait... Il y a 20 ans, je me suis retrouvée à Paris, dans cette grande capitale, autour d'un dîner mondain. Des amis à moi qui m'avaient... Enfin, pas des amis, des connaissances à moi qui m'avaient invitée. Je m'étais dit, oh, c'est peut-être le bon endroit pour se faire des relations professionnelles. Et en fait, je me retrouve dans ce dîner avec des gens qui parlent de plein de choses, de culture, de livres, de films. Évidemment, je ne capte pas tout parce que je n'avais pas cette culture-là. Et surtout, moi, à la maison, on n'allait pas au théâtre, pas forcément au cinéma. C'était une culture plus populaire, entre guillemets. Et je les entends commencer à parler... d'une femme qu'ils ont vue sur scène il y a des années, et l'autre lui répond « mais oui, et rappelle-toi cette créativité, ces bananes, et là je suis de plus en plus paumée », et puis l'autre dit « bah oui, Joséphine, quelle artiste, Joséphine, je percute pas », et je dis « mais vous parlez de qui ?» Et là on m'a regardée comme si j'étais une bête curieuse, puisqu'effectivement il parlait de Joséphine Baker, et moi je ne savais pas qui c'était. Mais ce moment-là, qui a duré 30 secondes, c'est très loin, où j'ai vraiment senti d'être une merde en plein dîner, m'a fait me sentir tellement petite et tellement honteuse que je me suis dit, mais c'est fou de... D'abord, je m'en suis voulu presque de me mettre dans cette position-là. Et après, je me suis dit, c'est complètement con de faire vivre ça à quelqu'un. Tu peux simplement expliquer qui est Joséphine Baker et puis passer ton chemin. Mais ce dîner m'est resté. Et il m'est resté comme étant quelque chose qui, dans le jugement, reste tellement petit, tellement bête. Parce que personne ne sait tout sur tout, en fait. Mais il y a des gens, et pardon, mais à Paris plus qu'ailleurs, hein, quand même, qui ont ce côté très... j'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai absolument tout découvert, et toi, ta gueule. Mais ta gueule, toi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui ont le bon sens de la vie, l'humanité, quoi. C'est pour ça que j'explique dans le spectacle que quand tu croises des gens comme Jean d'Ormesson ou Jacques Chancel, qui ont été des maîtres à penser pour moi, qui ont passé du temps avec moi à m'élever un peu et qui m'ont jamais rabaissé, bah, je me dis, voilà, l'intelligence, elle est là. Mais c'est d'abord l'intelligence de la vie.
On met du temps à s'affranchir des regards.
Ben oui. Ça commence tôt, hein. Ça commence à l'école déjà, où tu prends cher quand même, quoi. Mais qui que tu sois d'ailleurs. Oui, ça prend du temps parce qu'il faut trouver sa place. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, moi, rien à faire, le regard des autres. Non, c'est pas vrai. Il y a forcément un moment donné ou un autre, ou dans ta vie, où t'es en décalage, en fait, d'un milieu social, ou de gens qui n'ont pas la même culture que toi, ou de gens qui n'élèvent pas tes gosses de la même façon. Alors après, avec le temps, moi, je crois que là, je fais tellement de bien. Moi, je suis tellement heureuse d'avoir plus de 40 ans. Et plus je vieillis et plus je me dis c'est génial la vie.
Pourquoi
quoi.
Ça ?
Mais parce que en fait c'est le début est très dur quoi. Pour rien au monde je repartirais à 20, 30 ans. Pour rien au monde, rien, tout est dur je trouve. Tes histoires d'amour sont compliquées. Rien n'est apaisé voilà en fait.
Aujourd'hui est-ce que vous vous sentez bien à votre place ?
Mais tellement. Mais oui, j'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. Jamais parce que, encore une fois, je pense que je me suis vraiment affranchie du regard des autres. Et alors là, je suis passée dans une autre phase qui est vraiment sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème à dire non, il n'y a plus de problème à dire les choses. Je maîtrise l'entourage que j'ai, c'est-à-dire que j'ai peu de gens autour de moi, mais c'est des gens géniaux et qui ne se gênent pas non plus pour me dire ce qu'ils ont à dire. Et on a des vraies conversations profondes qui ont du sens. Et on se fait pas chier, quoi. Je peux pas te dire mieux. C'est, pardon d'être vulgaire, mais c'est vraiment ça, quoi. Et je pourrais plus aller sur un chemin qui m'emmène dans la contrainte, personnelle ou professionnelle. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être sur scène le soir, parce que je délivre un peu ça. Et si ça peut faire du bien un tout petit peu à ceux qui m'écoutent, ben, j'aurais gagné le pari, quoi.
Vous vous sentez comment sur scène ?
Libre.
Là, le soir de la première, ça s'est passé comment ?
Ah, ben, j'avais un trac fou. Et là, pour le coup, on se sent vivante. Et là, pour le coup, on se dit, mais t'as tellement bien fait de sauter la falaise. Parce que c'est ça l'aventure du risque aussi. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est gratifiant. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens réellement à ma place. Et quand j'ai vu cette salle comble, je me suis dit, bah, tu t'es pas planté. Ça t'est arrivé de te planter plein de fois, mais là, tu t'es pas planté.
Trois questions rapides pour finir.
Ouais.
Vous êtes-vous déjà senti irremplaçable ?
Bah, pas du tout. J'ai cru l'être auprès de mes enfants, et quand j'ai divorcé, je me suis rendu compte que le père était génial et qu'il faisait ça très bien. Et donc, du coup, j'ai changé d'avis. Et ça, c'est important. Il y a des papas super et qui font très bien le job.
Craignez-vous parfois d'être remplacé ?
Non.
Oublié ?
Non. J'aurais pu me poser cette question-là, encore une fois. Alors, dans mon métier, pas du tout. Hein, parce que j'ai réglé le problème de l'ego depuis bien longtemps et il est à sa place et bien au fond de la cave et c'est très bien. Non, comme toute femme, j'aurais pu penser ça à un moment donné quand mon ex-mari rencontre quelqu'un et de se dire, tiens, quelle femme prendra comme place auprès de mes enfants ? C'est compliqué. Au début, on se dit, tiens, ils vont développer aussi de l'amour pour elle, peut-être, et quelque chose. Puis en fait, c'est très sain. Bah, surtout si on tombe sur quelqu'un de sain en face. Alors, de la chance, c'est pas tordu, mais voilà. Et on en a parlé très naturellement. Mais toutes les femmes, à un moment donné, qui se séparent, peuvent avoir ce truc-là. C'est important de vite le régler, parce que sinon, c'est pas sain.
Enfin, qu'est-ce qui est déplacé, selon vous ? Et est-ce qu'on l'a jamais été avec vous ?
Si, on l'a été avec moi. On l'a été avec moi, d'une certaine façon. Il y a plein de moments dans ma vie où je pense ne pas avoir été jugée. Quand je dis à ma juste valeur, ça ne veut pas dire que je me vois sur un piédestal. Mais je pense que de milieu à milieu, parfois, vous savez, c'est cette condescendance qu'on peut avoir pour certains, parce qu'ils ne font pas partie du même milieu social, parce qu'ils ne sont pas dans le même cercle d'amis que vous, ou parce qu'encore une fois, ils n'ont pas la même culture que vous. Donc moi j'ai senti, par déplacement, moi j'entends condescendance dans votre question. Bien sûr que je l'ai senti, cette condescendance-là. Elle m'a touchée beaucoup parfois. Je me suis promis de ne jamais l'avoir avec qui que ce soit. Et bizarrement, c'est quand je suis au PMU avec mes petits vieux et mon café que je me sens le plus à ma place. Sans condescendance aucune d'un côté comme d'un autre.
Alessandra Sublet, merci, merci infiniment.
Merci, merci à vous.
Je suis Marion Ruggieri, vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Liu. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.